Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Alors, bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à l'émission À ta santé. Je m'appelle Layal et je suis étudiante en médecine à l'Université Laval. J'ai en ma présence aujourd'hui Mme Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition, qui va nous éclairer sur l'alimentation intuitive, un sujet d'actualité et qui prend de plus en plus de popularité. Bonjour, Mme Gravel.
Bonjour, Layal.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui.
Mais oui, le plaisir est à nous, vraiment. C'est moi qui vais vous remercier d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. En fait, Karine a complété son baccalauréat, sa maîtrise ainsi que son doctorat à l'Université Laval en nutrition. Et elle est maintenant chargée du cours au département de nutrition à l'Université de Montréal. Elle est aussi formatrice auprès des professionnels de la santé et du public, formatrice et conférencière pour Équilibre, conférencière pour Défi Entreprise, clinicienne en pratique privée, inspectrice à l'ordre professionnel des diététistes du Québec, experte de la FAQ, la famille du lait et auteur sur le blog Mon Équilibre. C'est vraiment super, c'est vraiment très impressionnant, Madame Gravel. C'est vraiment un plaisir, encore une fois, de vous avoir avec nous aujourd'hui. En fait, pour commencer, est-ce qu'on pourrait peut-être clarifier un peu plus pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'alimentation intuitive? Qu'est-ce que c'est au juste?
Oui, bien en fait, on définit l'alimentation intuitive comme une approche qui est positive, une approche qui est bienveillante. En fait, au lieu d'être une approche restrictive où on tente de contrôler notre alimentation, on tente davantage d'être à l'écoute de nos besoins. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est positif. Puis, c'est bienveillant parce que, comme je disais tantôt, on tente de mieux respecter nos besoins. C'est une approche aussi où est-ce qu'on retrouve 10 principes. Je pourrais vous en parler tout à l'heure, mais entre autres, il y a de mieux écouter sa sensation de faim, de vivre ses émotions avec bienveillance, par exemple. Puis, si je résume, là, c'est qu'on essaie vraiment de comprendre nos comportements, de ne pas se juger. Puis, on essaie d'apporter des changements durables dans notre alimentation ou nos habitudes de vie, hein, parce qu'on parle aussi d'activité physique. Donc, vraiment, on s'attarde à pourquoi on fait les choses, puis notre source de motivation est vraiment importante. Puis, l'autre chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de données scientifiques aussi qui appuient l'alimentation intuitive et qui en démontre des bienfaits là, sur la santé physique, mais aussi la santé mentale.
OK. Oh, wow. Fait que c'est vraiment une approche très complète, si je comprends bien. C'est vraiment une façon de vivre un peu.
Oui, mais ça s'appelle alimentation intuitive, mais on va pas se limiter à ce qui se passe dans l'assiette, là. on s'intéresse vraiment à la personne, comme je parlais d'activité physique tantôt, ça va être sa perception de l'activité physique, son rapport avec la nourriture, son rapport avec son corps aussi. Donc, entre autres, en explorant son image corporelle. Donc, c'est vraiment complet, là. On s'intéresse vraiment à la personne.
C'est ça. En fait, effectivement, c'est quel rôle vous trouvez que ça joue sur l'image corporelle de la personne?
Bien, en fait, on pourrait dire peut-être dans notre société de façon générale, c'est assez difficile au niveau de l'image corporelle. Hein, quand on nous propose, par exemple, des modèles de minceur, je pense qu'on s'améliore beaucoup, puis que la diversité est de plus en plus représentée, mais il y a toujours ce désir d'être mince qui est très présent. Alors, dans l'alimentation intuitive, on a un principe qui s'appelle respecter son corps. C'est que tous les corps méritent la dignité. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, peu importe la morphologie de son corps. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on ne décide pas de notre poids corporel, malgré qu'on puisse l'entendre souvent, là, qu'on peut tout contrôler, incluant notre poids. Bien, en réalité, il y a des facteurs qui expliquent notre poids sur lesquels on n'a pas de contrôle. Donc, on travaille davantage avec le poids naturel de la personne. Le poids naturel, c'est pas l'indice de masse corporelle, c'est quelque chose qui est différent. C'est qu'on va, c'est davantage un poids qu'on arrive à maintenir, je pourrais dire, assez facilement, puis avec des bonnes habitudes de vie. Donc, c'est un poids qui n'a pas tendance à varier beaucoup, puis qu'on n'essaie pas de contrôler volontairement.
Exactement. Bien, je trouve que c'est fascinant parce que c'est un peu complètement à l'encontre. Bien, je ne sais pas si vous direz plus à l'encontre, mais c'est très différent de toutes les autres approches des diètes amaigrissantes qu'on voit de nos jours. C'est vraiment focusé sur un but particulier, peu importe notre état de départ et notre physiologie corporelle aussi.
Oui, bien, en fait, ça relève un peu des diètes amaigrissantes. Hein, puis, si on compare les deux, c'est souvent une comparaison que je fais parce que ça aide à mieux comprendre. L'alimentation intuitive, ça a été proposé dans la littérature scientifique comme une solution de rechange aux diètes amaigrissantes, mais ça n'a absolument rien à voir. On est vraiment à l'opposé. Donc, il y a même un principe de l'alimentation intuitive qui s'appelle rejeter la culture des diètes. Donc, tout ce qui nous amène tout le temps à nous faire penser qu'on devrait maigrir, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer soit leur vie ou une grande partie de leur vie à penser qu'elles doivent maigrir constamment. Donc, tout est axé là-dessus. Donc, c'est de prendre conscience de toute cette énergie-là souvent qu'on met à vouloir changer son poids, par exemple. L'objectif est vraiment différent. Hein, dans les diètes, c'est de maigrir. Hein? C'est à peu près juste ça qui va nous intéresser. Alors que dans l'alimentation intuitive, l'objectif, c'est pas la perte de poids, mais c'est d'améliorer sa relation avec la nourriture puis avec son corps aussi. Donc, d'avoir une attitude positive à l'égard de son corps. Puis, tu sais, comment on va voir notre progrès dans l'alimentation intuitive? Mais ça va être, par exemple, par tous les petits gestes qu'on va faire, mais pour prendre soin de notre santé physique puis notre santé mentale. Donc, je vais donner un petit exemple concret, là, mais de mieux écouter sa sensation de faim alors qu'avant, je ne l'écoutais pas nécessairement. Tu sais, ça peut être des points comme des indicateurs comme ça. Puis, l'idée aussi avec les aliments, ben, c'est d'être davantage à l'écoute de ses besoins, de ses préférences, puis pas de bannir certains aliments ou encore de vérifier si on le mérite ou de calculer le nombre de calories. Là, on est vraiment très, très loin de ça.
C'est ça. Puis j'imagine que c'est aussi très loin du fait que, ben, en fait, la plupart des diètes amaigrissantes, j'ai l'impression que c'est un peu des solutions à modèle taille unique. C'est vraiment, comme on dit, one size fits all un peu. Puis ça marche pas toujours pour tout le monde. En fait, je me demandais, est-ce que vous considérez que l'alimentation intuitive, une approche qui peut être appliquée ou adaptée par tous? Et si oui, comment on peut l'adapter à chacun? Sinon, qu'est-ce qui ferait de quelqu'un un bon candidat? Oui.
Bien, en fait, c'est une approche qui est vaste. Hein? Je le disais tout à l'heure, on aborde l'image corporelle, la perception de l'activité physique, les émotions. Donc, c'est très vaste. Je pense que, bon, pour chaque personne, l'idée, c'est vraiment de comprendre de quoi il s'agit. Puis, on n'a pas besoin d'appliquer... l'idée, c'est pas d'appliquer à la lettre ces 10 principes-là. Moi, je trouve que c'est comme d'aller chercher ce qui va nous faire du bien. Puis, on n'a pas besoin de manger intuitivement de façon très pure. Là. c'est vraiment comme un... j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est comme un cadre... une approche avec laquelle on peut s'inspirer. C'est sûr qu'il y a des personnes, des fois, qui raffolent de cette approche-là, qui sont mûres pour ça. Des fois, c'est des personnes, justement, qui ont fait beaucoup de diètes amaigrissantes, qui en ont suivi pendant des années, puis qu'à un moment donné, elles sont tannées, puis qui veulent réapprendre à écouter leurs besoins, par exemple. Donc ça arrive assez régulièrement. Mais dans tous les cas, on essaie de voir ça comme une approche aussi là, qui est flexible. Est-ce que la question, c'était en lien avec plus si on a une maladie ou dans le sens, est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que c'est plus dans ce sens-là?
C'est ça, en fait. Disons, par exemple, parce qu'on a un peu de tout, fait qu'on a des gens avec des maladies chroniques. Il y a des gens qui, souvent, ils veulent perdre du poids, mais il y en a d'autres qui, peut-être, veulent prendre du poids. Fait qu'en fait, j'ai compris un peu, l'approche est vraiment vraiment pas comme les diètes amérissantes. Mm-hmm. C'est vraiment centré sur un but. Ah, je veux perdre du poids, oui. Peu importe la santé, peu importe ce que ça va faire à mon état mental ou quoi que mm-hmm. ce soit. Mais est-ce que l'alimentation intuitive, elle a une place pour ces gens-là tout de même? Fait que, disons, si quelqu'un mm-hmm. veut perdre un peu de poids, mais de façon saine, si elle veut gagner du poids, mais de mm-hmm. façon saine, oui. si elle a une maladie chronique, mais elle veut être plus intuitive dans son alimentation, est-ce oui. que ça peut lui faire du bien ou est-ce que mm-hmm. c'est ça un peu?
Par rapport au poids, tu sais, quand tout à l'heure tu mentionnais ben, une personne qui veut en prendre, une personne qui veut en perdre, en fait, c'est qu'on travaille pas sur le poids directement. Bon, il faut être conscient de ça, là, déjà en partant, de pas dire ben, je vais modifier mon poids avec l'alimentation intuitive, parce que déjà là, c'est pas l'objectif de l'approche, donc on part avec un problème ici. Par contre, c'est sûr que où est-ce qu'on va diriger notre attention, c'est de voir ben, quelles sont les habitudes de vie qu'on peut améliorer. Exemple, je suis sédentaire ou je fais pas beaucoup d'activité physique, ben est-ce que j'ai envie, par exemple, de bouger, de prendre soin de moi, de trouver une activité qui m'intéresse, de voir la motivation que j'ai, parce que bouger, ça fait du bien à notre corps. T'sais, on essaie de le voir de cette façon-là. Ça pourrait être aussi de manger une variété d'aliments, de ne pas avoir d'aliments interdits. Donc, tout ce qui peut être amélioré au niveau de nos habitudes. Puis, vraiment, de le faire, c'est ça, en suivant nos habitudes. Puis, ça n'exclut pas qu'il peut y avoir une modification du poids après quelques temps. Par contre, on le voit comme une conséquence, comme un effet secondaire, en fait. C'est qu'on ne travaille pas sur notre poids directement, mais on travaille sur l'ensemble de nos habitudes, un peu pour retrouver notre poids naturel, là, comme je parlais tout à l'heure. Puis ce poids naturel-là, bien sûr, on ne le décide pas non plus. Hein. C'est peut-être pas le poids rêvé qu'on a en tête, mais c'est probablement le poids avec lequel notre corps est plus confortable, où il y a le plus d'énergie, où il fonctionne mieux aussi. Fait que ça, c'est important de faire cette distinction-là. Je ne sais pas si c'est clair par oui. rapport au poids. Oui, ça va?
Okay. Pour moi, c'est très, très clair. Oui. J'espère oui. bien pour nos auditeurs, je le pense aussi, oui. en tout cas.
Ouais.
Parce que c'est ça, c'est vraiment... Ça enlève un peu l'emphase qu'on met trop sur les nombres et le oui. nombre du poids, le petit target, la petite visée du poids qu'on cherche.
Oui.
Un peu, ça remet notre focus sur quelque chose d'autre qui est vraiment la santé et le bien-être, en
oui.
tout cas, selon ce que j'ai compris.
Mais c'est exactement ça. Tu sais, on met notre énergie sur des choses sur lesquelles on a un certain pouvoir, comme nos habitudes de vie. Pas dans le sens que c'est facile, mais on a quand même un certain pouvoir dessus. Je vais donner un exemple par rapport à notre poids. Notre poids est expliqué en partie par la génétique. Après ça, il y a l'âge qui va influencer, les hormones. Puis ça, c'est toutes des choses que on a, même si on est vraiment, vraiment très gentil ou gentil, on n'a pas vraiment de pouvoir dessus. Donc, on risque de travailler un peu dans le vide, finalement, tu sais, d'avoir peut-être des attentes qui sont grandes, puis de se retrouver insatisfaite ou insatisfait là, si on n'arrive pas à modifier notre poids. Donc, l'idée, c'est de travailler bien, sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Et ça, c'est plus en lien avec le poids. Sinon, par rapport aux maladies chroniques, on n'est pas, avec l'alimentation intuitive, hein, on n'a pas une alimentation qui est déterminée non plus par une autre personne. Hein. On y va avec des aliments bien, avec lesquels on se sent bien, dans des quantités qui correspondent à nos besoins aussi. Puis, c'est sûr que bon, selon notre condition médicale, ben parfois il y a certains points à porter attention dans notre alimentation. Hein. Je peux imaginer une personne qui a une hypertension artérielle et qui doit faire attention de pas trop consommer de sodium, par exemple. Mais oui, ça, on remet pas ça en question évidemment. Il y a des recommandations, il y a des lignes directrices là, selon la maladie qu'on a. Mais c'est sûr que après ça, ben on va pouvoir adapter l'alimentation intuitive en conséquence, voir ben qu'est-ce qu'on peut faire justement pour tenir compte de cette condition-là? Je vais donner un exemple concret encore une fois. Donc, je parlais d'image corporelle tantôt. Ben, peu importe, hein, tout le monde a intérêt à développer une image corporelle qui tend vers le positif, ça c'est certain, peu importe si on a une maladie chronique. Au niveau de la sensation de faim, de la sensation de rassasiement, ben ça aussi, on a toujours intérêt à essayer de les écouter le mieux possible. Sinon, il y a un principe, j'en ai pas parlé encore, celui-là traite un petit peu plus de l'aspect sensoriel des aliments, le fait de déguster, de s'attarder aux aliments avec nos cinq sens. Ben, tu sais, peut-être que là, ça pourrait être intéressant pour notre personne qui a de l'hypertension artérielle, comme dans mon exemple. Ben, tu sais, on sait qu'il faut il faut limiter le sodium, ben que ça pourrait être une occasion, par exemple, de vraiment découvrir, je sais pas moi, des fines herbes, des épices sans sodium, mais vraiment expérimenter davantage pour essayer que ce soit satisfaisant au niveau sensoriel quand même. Tu sais, là, ça peut être une occasion de découvrir, peut-être trouver des choses qui sont meilleures encore que le sodium. Donc, ça demande d'adapter un petit peu. Ou encore, une personne qui serait limité, par exemple une personne en fauteuil roulant, par exemple. À ce moment-là, on a un principe là, sur l'activité physique, donc ça s'appelle ressentir les bienfaits de l'activité physique. Ben on adapterait à ce moment-là, tu sais, à ce que la personne est capable de faire, mais elle est capable quand même de ressentir certains bienfaits, on pourrait dire. Peut-être pas avec ses jambes, peut-être avec d'autres parties de son corps, mais ça demande comme ça d'être adapté. Mais il y a même quelques études là en lien avec le diabète de type 1, diabète de type 2, avec les troubles alimentaires. Donc, tu sais, vraiment, c'est étudier puis voir comment on peut adapter l'alimentation intuitive à sa condition finalement.
Oui, fait que je trouve finalement ce que j'ai compris, ça complimente bien en fait les aspects de la vie, fait que peu importe ce qui se passe dans nos vies, ça vient un peu complimenter puis nous aider en fait à passer à travers quoi que ce soit, même si c'est une maladie chronique ou un but quelconque qu'on veut atteindre aussi. Fait que oui. C'est ça. Ben en fait, je me demandais là tantôt, vous aviez aussi parlé des 10 principes. Je sais pas si
oui.
C'est ça, je sais pas si on peut plus en parler, mais je me demandais, pour ceux qui vous écoutent aujourd'hui, puis disons, on se dit, OK, ben moi, ça me tente de commencer à m'alimenter de manière plus intuitive.
Oui.
Quelles seraient les premières étapes à prendre selon vous? Est-ce que vous auriez des petits pointeurs pour nous guider dans une bonne direction?
Bien sûr. Il n'y a pas une recette toute prête, là, mais je pourrais quand même, avec mon expérience en clinique, là, vous justement pointer des éléments là, qui pourraient être intéressants. Entre autres, avec le principe là, de rejeter la culture des diètes. Ça, c'est quelque chose que je conseille beaucoup à mes clientes et mes clients, de faire le ménage des médias sociaux. De voir qu'est-ce qu'on suit sur les médias sociaux. Est-ce que c'est des comptes, des groupes de perte de poids? Est-ce qu'on nous met de la pression pour perdre du poids? Quel genre d'image on voit? Tu sais, si déjà c'est difficile la relation avec notre corps puis avec les aliments, ben à ce moment-là, ça peut. Moi, je conseille vraiment ce ménage-là. Gardez juste des comptes qui nous font du bien. puis ça peut être la même chose dans les livres qui veulent tout le temps nous amener à perdre du poids ou je parle des livres en papier, là, pas la mesure. Donc, vraiment, d'aller faire un petit ménage de ce côté-là, de se libérer de ça. Pas toujours voir ce genre d'informations-là qui, finalement, ne fait pas de bien, finalement. Et ça peut être une première chose à faire. Ensuite, dans l'alimentation intuitive, on entend souvent parler des sensations de faim, rassasiement. C'est pas seulement ça, évidemment, c'est tout l'ensemble des principes. Mais ça pourrait être une chose intéressante de se demander, avant de manger, généralement, il est comment mon niveau de faim? Est-ce que je porte attention à ça? Est-ce que des fois, je mange de façon automatique parce que c'est l'heure? Est-ce que d'autres fois, je me retrouve affamée? Donc ça peut être intéressant. Puis avec le rassasiement, bien, on peut se demander, c'est quoi les raisons qui m'amènent à cesser de manger généralement? Est-ce que automatiquement, je termine le contenu de mon assiette sans me poser de questions, bien, ça peut que ça convienne comme portion, mais c'est peut-être un hasard à ce moment-là. Donc, vraiment de voir est-ce que je m'arrête pour me poser la question ou voir comment je me sens. Ça pourrait être intéressant aussi. Ensuite, de voir est-ce que j'ai des aliments interdits. Des aliments, par exemple, que je m'empêche de manger ou que je me sens coupable de manger. Donc, ça peut être intéressant déjà d'explorer ça. Ou encore, est-ce que j'ai l'impression de manger les aliments que j'ai envie de manger, tu sais, de pas me restreindre ou de me priver, là. Ça peut être intéressant aussi, donc, de travailler à se donner la permission de manger ce qu'on a envie de manger parce que, bon, ça peut surprendre des fois, mais plus je m'interdis de manger un aliment parce que je veux bien faire puis je veux pas trop en manger, bien, plus ça va le rendre attirant. Donc, ça veut dire que je risque que quand je vais y avoir accès, j'en mange en excès ou j'ai du mal à ce moment-là. Puis là, je me dis, bien, j'en mange trop, donc j'en achèterai plus. Puis là, bon, on est pris un peu dans un cycle. Donc ça peut être intéressant d'explorer ça. C'est quoi la relation avec la nourriture qu'on a? Puis là, je dis plein de choses. Là, ça ne veut pas dire de tout faire ça en même temps. C'est vraiment des pistes parce que moi, je trouve que c'est intéressant aussi d'y aller avec ce qu'on a envie en premier, tu sais, c'est certain. Au niveau de l'image corporelle, ben voir comment ça va. Tu sais, l'idée, c'est pas de se trouver parfaite ou parfait, là, parce que là, ça peut être problématique aussi si jamais ça arrive, mais l'idée c'est quand même d'être bien, d'apprécier son corps, puis tu sais d'avoir un discours intérieur aussi qui est bienveillant en fait, voir qu'est-ce qu'on se dit, parce que des fois ça peut arriver qu'on soit très sévère avec nous, puis ce soit pas aidant non plus. Puis voir c'est quoi mes motivations à faire de l'activité physique, est-ce que je le fais parce que ça me fait du bien, ça fait du bien à ma santé physique et mentale, ou si je le fais juste dans le but de perdre du poids, par exemple. Donc, ça peut avoir un effet là, sur la motivation si jamais je le fais seulement dans le but de perdre du poids. Et là, je dis plein de choses. Mais l'idée, hein, c'est ouais. Ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être le plus à l'écoute de ses besoins versus essayer de contrôler. Parce que le contrôle, là, généralement, c'est pas éternel, cette affaire-là. On stagne un peu avec ça. Donc, vraiment, d'être à l'écoute de ses besoins. Puis là, j'en parle très rapidement, mais parfois, on sait pas par où commencer, puis de l'aide professionnelle peut être nécessaire aussi. Donc, ça, c'est important de le considérer, hein, parce que je le mentionne parce que parfois, j'ai des clients qui me disent, bien, pourtant, j'ai lu les livres sur l'alimentation intuitive, je trouve que ça a de l'allure, mais j'ai du mal à l'appliquer. Bien, c'est tout à fait normal que ce soit difficile parce que là, on tente de modifier des comportements. Puis ça, bien, parfois, de l'aide en nutrition ou en psychologie, ça peut être très utile.
Ah, absolument. Ben oui, bien sûr. Mais merci beaucoup. Là, je trouve que c'est une bonne, c'est des bons un peu pointeurs, juste pour nous mettre dans la même bonne direction, pour piquer notre intérêt. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que de l'aide, ce serait vraiment nécessaire pour tout changement de comportement aussi. Donc, c'est vraiment bien de pointer ça aussi. En fait, si on prend un petit recul, puis on vise un peu une plus grande échelle. Donc, disons, si on vise la santé publique et l'amélioration des saines habitudes de vie des générations futures, quel rôle, pensez-vous, pourrait jouer l'alimentation intuitive dans l'enseignement des saines habitudes de vie aux enfants? Parce que, comme on peut le savoir, c'est un peu, comment on peut dire, c'est le bon moment d'intervenir, on dit souvent. Donc, comment on peut l'appliquer à ces premières années de vie, si possible?
Oui, bien, en fait, les enfants, les petits-enfants, ce sont des mangeurs intuitifs. Donc, notre travail, ça va être de les garder comme ça.
Ah, okay.
C'est le contraire. C'est pas nous qui devons leur dire comment faire. C'est de eux dont on doit s'inspirer. Puis c'est vraiment amusant parce que parfois, j'ai des clientes qui vont observer leurs petits-enfants puis qui vont le dire. C'est vraiment des mangeurs intuitifs. Ouais. Ils n'ont pas les préoccupations par rapport au poids ou, tu sais, il n'y a pas toutes ces connaissances-là. Ils sont vraiment plus sensoriels aussi. Donc, comment on peut faire pour les garder comme ça? Bien, je pense que déjà, là, c'est bon, l'idée, c'est pas de se mettre de la pression, mais de se rappeler qu'en tant qu'adulte, nous sommes des exemples. Donc, voir c'est quoi, nous, notre relation avec la nourriture. Est-ce qu'on parle des aliments d'une façon négative ou on parle d'aliments qui vont faire grossir ou encore quels commentaires on fait sur notre propre poids? Tu sais, même si c'est pas dirigé vers les enfants les entendent, ces commentaires-là. Ou ils voient que papa ou maman sont au régime aussi. Donc, ça, c'est important. Puis, tu sais, c'est pas pour se culpabiliser si c'est des choses qu'on fait, mais c'est d'en prendre conscience aussi que les enfants, ben c'est des éponges. Puis, ça, c'est une chose. Sinon, ben c'est sûr que là, on est dans un cadre d'éducation. Donc, les enfants ont besoin quand même de certains cadres. On ne les laisse pas à eux-mêmes non plus. Donc, on peut appliquer ce qu'on appelle la responsabilité partagée avec les enfants. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que les parents, les adultes vont décider des aliments qui sont offerts, vont décider du moment où on mange, de l'endroit où on mange. Des fois, ça peut varier dans la maison. Donc, ça, c'est une responsabilité de l'adulte, et l'enfant lui décide la quantité. C'est à lui de gérer ça. Il pourrait, par exemple, décider de pas manger, mais il va quand même s'asseoir à table avec les autres. Donc, ça, c'est important. Donc, vraiment, tu sais, les parents peuvent offrir une variété d'aliments, mais l'enfant va choisir à l'intérieur de ça. Mais c'est pas aux parents de décider de la quantité que les enfants doivent manger, parce que ça, naturellement, on le sait, hein, même quand on est un bébé, on s'en souvient plus personne, là. Mais on est capable quand même de se réguler. C'est ça qui est intéressant. C'est comme quelque chose qui est inné.
Oui, fait qu'en fait, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu plus confiance aux enfants de ce côté-là.
Oui.
Parce qu'ils se connaissent un peu mieux selon ce que j'ai compris de vous. Genre, c'est fascinant. Fait qu'on devrait apprendre l'alimentation intuitive un peu plus d'eux.
Oui, c'est ça, exactement. Ou les garder comme ça. Tu sais, je pense que c'est un bon service à rendre aussi. Oui. Ça risque d'être peut-être plus facile plus tard, en fait.
Oui, c'est ça. Parfait. En fait, considérant qu'une bonne partie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont des étudiants aussi, puis des jeunes en début de carrière, et étant vous-même formatrice auprès des professionnels de la santé et du public, quel rôle pourrait avoir l'alimentation intuitive sur la prise en charge des patients de ces futurs ou présents professionnels?
En fait... De si je peux donner encore là quelques éléments, je pense en premier lieu vraiment s'intéresser à la personne, s'intéresser à son histoire, autant à sa santé physique que sa santé mentale aussi. Puis je sais que dans la vie, on est très occupé puis qu'on n'a pas beaucoup de temps nécessairement là, avec les clients, les patients qu'on rencontre, mais vraiment, tu sais, de faire le plus possible là, en ce sens-là. Puis vraiment baser ses interventions sur les habitudes de vie. Voir avec la personne qu'est-ce qu'on peut améliorer, pas baser son intervention sur la perte de poids. Parce qu'en réalité, notre poids, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Mais les habitudes de vie, tu sais, tout le monde a intérêt à manger sainement, tout le monde a intérêt à faire de l'activité physique, peu importe son poids ou sa morphologie, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pas seulement pour certaines personnes, évidemment. Puis, une autre chose aussi, ce serait de ne pas confondre le poids puis la santé. Donc, de ne pas penser que parce qu'on juge une personne en surpoids qu'elle a automatiquement un problème de santé, puis à l'inverse, en se fiant à notre indice de masse corporelle, si la personne a un poids qu'on considère normal, elle a pas de problème de santé. Fait que des fois, les jugements, ils sont assez faciles. Hein? Fait que de se rappeler que le poids, c'est un des déterminants de la santé, mais c'est pas le seul. On peut travailler sur le stress, sur le tabagisme, sur l'alimentation, l'activité physique. Donc, de vraiment voir ça de façon globale, mais pas se fier au poids de la personne. Ouais. Malheureusement, je sais que ça existe. Donc, puis tu sais, je trouve que c'est dommage parce que ça ouvre la porte au jugement sur le poids à ce moment-là, au préjugé à l'égard du poids. Donc, vraiment, c'est important de questionner la personne puis vraiment de lui demander quelles sont ses habitudes et comment ça se passe. Puis l'autre chose encore une fois par rapport au poids, ben je dirais, puis ça vient de la ligne directrice de pratique clinique là, qui est sortie en août 2020, donc de demander la permission pour parler de poids. Ben, parfois, ça va être le client qui va l'aborder le sujet lui-même. Ben, ça va, en tant que professionnel, on continue d'en parler, mais si jamais en tant que professionnel, on veut parler de poids, donc vraiment de le demander, de demander la permission pour peser la personne aussi. À moins que, bon, cette mesure-là, elle soit absolument indispensable, là, mais on peut quand même le demander et l'expliquer pourquoi c'est indispensable, parce que c'est pas banal pour tout le monde, le poids. Parfois, j'ai des clientes et des clients qui me racontent, tu sais, qui ont un rendez-vous à venir chez le médecin, là, puis ils commencent à stresser une semaine avant parce que ils ont peur. Vraiment. Puis ça, ben des fois, c'est vraiment un sujet qui est censé, pas pour tout le monde, mais oui, pour certaines personnes, c'est comme ça. Donc, puis même nous, en tant que professionnels, si jamais c'est un sujet, le poids avec lequel on est vraiment à l'aise, puis que nous, la balance, ça ne nous dérange pas, ben de tenir compte que c'est pas comme ça nécessairement pour tout le monde. Donc, vraiment, de faire attention à ça. Quand mes clients me racontent comment ça se passe, puis ça se passe comme ça, où on leur demande la permission, puis que les professionnels sont vraiment respectueux, ils me racontent, puis ils sont vraiment heureux. Vraiment. Oui, c'est ça. Des fois, de dire, ben, j'ai été stressée pour rien, ça s'est super bien passé, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de ça, d'être jugées parfois là, en raison de leur poids. Donc, vraiment, je pourrais dire là, comme conseil, ben, de tenir compte que ça existe, donc de prendre des précautions à cet effet-là.
C'est ça, exactement, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a les mêmes buts non plus, peu importe leur allure physique ou quoi que ce soit. Puis je trouve que c'est vraiment un bon point que vous mettez ça, parce que là, je trouve qu'il y a plus en plus de personnes qui en parlent, puis plus de personnes qui sont conscientes là-dessus, mais il reste encore un petit travail à faire aussi. Effectivement.
Oui, vraiment. Ouais. On n'est jamais trop prudent.
Non, c'est ça. En fait, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aurais une dernière petite question pour vous. Je serais vraiment curieuse par rapport à une de vos expériences. En fait, pendant vos études, vous aviez effectué un stage au Japon au cours duquel vous avez étudié les centenaires d'Okinawa et les raisons de leur longévité exceptionnelle. Je suis curieuse à savoir, est-ce que vous pourriez m'en parler davantage? Qu'avez-vous appris au cours de ce stage que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs?
Oui, bien en fait, j'ai appris beaucoup de choses, autant au niveau professionnel que personnel. Puis à ce moment-là, c'était en 2009, donc j'étais déjà nutritionniste en fin de maîtrise. J'ai terminé mon mémoire de maîtrise d'ailleurs à Okinawa. Puis bien évidemment, je suis partie là en bonne nutritionniste en me disant, bon, bien c'est les habitudes de vie, donc je vais voir qu'est-ce que ces gens-là mangent et qu'est-ce qu'ils font comme activité physique. Donc oui, ce sont des points intéressants, mais c'est vraiment toute la société qui est différente, vraiment. Pour donner des exemples, là-bas, vieillir, c'est une fierté. On ne peut pas en dire autant ici, malheureusement. Je pense que ça évolue tranquillement, mais c'est tout à fait différent. Là-bas, les gens, c'est l'endroit où il y a le plus de centenaires sur la planète, sur l'île d'Okinawa, par nombre d'habitants. Puis, il y a vraiment des touristes qui vont à Okinawa puis qui vont rencontrer les centenaires. Puis eux, ils sont vraiment fiers de ça. Donc, là-bas aussi, puis je vais dire les vieux, hein, mais c'est pas péjoratif du tout. Moi, les vieux, les jeunes, tout le monde est équivalent de toute façon. Mais les plus vieux, en fait, ils ont de l'expérience. Donc, quand, par exemple, il y a des décisions à prendre dans la famille, dans le village, on va consulter les plus vieux parce que eux, ils ont vu autre chose avant. Ils sont utiles, ils sont consultés. Donc, vraiment, ils ont un rôle à jouer toujours. C'est pas à partir de tel âge, je suis à la retraite, je suis tassée puis je n'existe plus. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui est importante. Une autre chose aussi, ça c'est un mot en japonais qui c'est ikigai. On le voit, on commence à le voir de temps en temps. Ça veut dire, en fait, c'est une raison d'être. Ça veut dire qu'on se lève le matin, peu importe quel âge on a, mais on a vraiment des passions. Il y a des choses qu'on fait. Tu sais, on pourrait travailler à temps partiel, on pourrait faire du bénévolat, mais il y a toujours quelque chose qui nous motive. On n'a pas rien à faire. Donc, ça, c'est un autre point qui est intéressant. Puis bon, c'est sûr, toutes les relations aussi entre les générations. Tu sais, les personnes vieilles ne sont pas tassées d'un côté, les plus jeunes d'un autre côté, mais vraiment, ça se passe beaucoup ensemble. C'est différent de notre société nord-américaine. Donc ça, c'est un élément qui est important. Puis les personnes vieilles aussi vont rester à la maison plus longtemps. Tu sais, il y a de l'argent qui est mis pour recevoir de l'aide à la maison, mais pas que les personnes âgées soient déracinées, soient enlevées de leur milieu parce qu'elles ont à peu près tout un jardin. Là-bas, l'hiver, il fait 25 degrés Celsius. Là. Donc, le jardin est toute l'année. Donc, vraiment, hey, ça, c'est le fun, habiter ta maison, avoir ton jardin, c'est vraiment agréable. Donc, c'est pour ça, c'est des petits exemples concrets, mais c'est vraiment différent. Toute la société aussi, les pensées par rapport à l'âge aussi. Donc, évidemment, la nourriture... J'en parle même pas, mais ça bien sûr, c'est vraiment bien aussi, c'est différent, l'alimentation est variée, puis il y a la pratique de l'activité physique aussi, donc des personnes vraiment âgées parfois. Là, moi, j'habitais près d'une plage, là, j'allais courir le matin très tôt, puis il y avait je peux pas savoir leur âge, mais il y avait vraiment des personnes vieilles là, qui faisaient du vélo, puis c'est vraiment, les gens sont vraiment actifs. Là. Donc, c'est vraiment, oui, les habitudes de vie, mais c'est aussi toute la société qui est faite justement pour valoriser les personnes plus vieilles.
Oh wow! Fait que c'est vraiment toute une dynamique très, très différente aussi. Fait que
oui.
C'est très... Oh wow! Mais vraiment, c'est très fascinant. Merci!
C'est vrai, je pourrais en parler longtemps, mais bon, ouais. On va s'arrêter là. Mais tu sais, c'est juste de retenir que, ben oui, il y a les habitudes de vie qui sont là, mais il y a beaucoup plus aussi. Mm. J'aimerais ça que ça nous inspire, nous aussi, ici en Amérique du Nord.
On s'en va peu à peu dans cette direction-là, mais c'est ça, on peut toujours apprendre honnêtement des différentes cultures, puis c'est vraiment super qu'est-ce qu'on peut apprendre, puis les différentes choses, surtout quand c'est un peu focusé sur autre chose que juste le nombre ou le poids ou l'âge, je trouve que c'est vraiment là qu'on se rend plus, qu'on se rapproche du bien-être un peu physique et mental.
Oui, ça va. Il y a eu quand même un petit problème de son. Mais en fait, c'est que des fois, on essaie de trouver l'ingrédient miracle, la recette magique, la chose à faire pour vieillir longtemps et en santé. Puis on se rend compte que c'est vraiment une combinaison de facteurs. Il n'y a pas de miracle, en fait.
Exactement. Ceci conclut malheureusement notre échange sur l'alimentation intuitive avec Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition. Madame Gravel, ce fut un gros plaisir de ma part et j'espère bien aussi de nos chers auditeurs de vous écouter mettre une lumière sur l'alimentation intuitive et sur la simplicité et le plaisir que celle-ci peut introduire à notre relation avec la nourriture, peu importe notre situation honnêtement. Que vous ayez manqué cette rencontre ou que celle-ci ait réussi à piquer votre curiosité sur l'alimentation intuitive, vous pouvez toujours en savoir plus en visitant le blog scientifique de Karine Gravel au www.karinegravel.com et suivre notre invitée sur Facebook, Instagram et Twitter sous Karine Gravel et @KarineNutrition ainsi que sur LinkedIn. Donc, une dernière fois, merci beaucoup, Madame Gravel. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente journée.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. À la prochaine!